Bonjour à tous et bienvenue pour ce second numéro de C'est dans la boîte. Après le succès interplanétaire du premier numéro, nous nous retrouvons aujourd'hui pour parler de trois films de l'actualité ciné. Tout d'abord le diptyque d'Edgar Wright's Heimat, le blockbuster dans l'espace d'Alfonso Cuarón, Gravity, et enfin la sortie d'un film du Festival de Cannes, pas n'importe lequel, le dernier en date des frères Coen, Llewyn Davis. Et puis en fin d'émission, on fera à nouveau quelques recommandations de films qu'on a aimés ou dont on attend la sortie avec impatience. Dans la boîte. On commence avec le très beau Heimat d'Edgar Wright, un film presque exclusivement en noir et blanc et en deux parties, Chronique d'un rêve et L'Exode.
Oui, donc je vais dire deux mots sur le réalisateur pour situer un peu la chose. Donc, c'est un réalisateur allemand qui est né en 1932 et qui est connu surtout pour sa trilogie Heimat. Donc Heimat, c'est un terme un peu difficile à traduire. C'est le lieu où on est chez soi, en fait, la ville d'où on vient, la région d'où on vient. Une trilogie donc qu'il a occupée pendant 20 ans, de 1984 à 2004, et dans laquelle il suit en fait les destins d'une famille qui habite dans un petit village fictif qui s'appelle Schabach, dans une région massif montagneux au sud-ouest de l'Allemagne, le Hunsrück. Et donc, il suit leur destin à travers tout le XXe siècle. Il balaye l'histoire du XXe siècle, de juste après la Première Guerre mondiale, bien après la chute du mur, jusqu'en 2000. C'est un panorama, en fait, de l'histoire allemande. Et ce qui a contribué au succès de cette trilogie, c'est, je pense, cette idée de la grande histoire vue à travers la petite. C'est-à-dire qu'on a toute l'histoire de l'Allemagne, les guerres mondiales, la réunification, la division, etc., à travers les destin individuel des personnages, les fils qui partent en guerre, qui reviennent, qui se marient, bon, les mariages, les séparations. Et donc maintenant, dans ce nouveau film qui s'appelle en français Chronique d'un rêve, en fait en allemand Chronique einer Sehnsucht, donc Sehnsucht encore une fois, bon, c'est un terme un peu peut-être qu'on peut pas traduire tel quel, oui, rêve, pourquoi pas nostalgie aussi. Et puis cette nostalgie, c'est la nostalgie du départ au loin, en fait, de l'exil, en l'occurrence au Brésil, donc dans une période historique très difficile pour l'Allemagne, puisqu'on est dans les années 1840, donc avant la révolution de 1848, la révolution échouée. Et donc on suit dans ce film le personnage principal qui est Jakob Zeman.
On peut dire l'exil, ce sera ensuite un thème qui sera repris dans le deuxième,
oui, c'est ça,
partie du diptyque.
Alors bon, après, c'est ça. En Allemagne, c'est un film qui est montré en une partie, qui rend pas forcément les choses plus faciles pour le spectateur, puisque ça fait 240 minutes en tout. En France, c'est en deux parties, effectivement. Bon, le thème de l'exil, du départ, je sais pas comment vous l'avez senti, il est présent un peu tout du long.
C'est surtout, en fait, il est centré quand même sur le personnage principal, Jakob, qui est un peu le Julien Sorel local, finalement, moins ambitieux. Que Julien Sorel, peut-être, il a quand même des motivations plus pures, puisque c'est surtout de sortir de ce petit milieu plongé dans la misère dont il vient, où il a quand même très peu d'avenir, et qui rêve donc de l'Amérique du Sud, en l'occurrence du Brésil.
Oui, c'est ça, c'est un jeune homme très sensible, très rêveur, extrêmement intelligent, qui a appris à lire, ou qui s'est lui-même peut-être appris à lire, qui a appris les langues étrangères, qui a appris les langues des tribus originaires d'Amérique du Sud.
D'ailleurs, il joue pas mal à l'Indien, c'est son surnom dans le village.
Voilà, c'est ça, le petit Indien de service. Et donc, dès le départ, on a un plan où on voit en fait des paysans partir sur leur chariot, une famille de paysans qui n'en peut plus, bon, restauration politique, crise.
Les trois fils même, si je me souviens bien, on voit les parents qui sont en pleurs devant tous leurs enfants qui partent.
Voilà, la séparation douloureuse, donc crise économique, famine, etc. On va avoir plus tard dans le film les petits enfants qui meurent, et donc on voit dès le début les paysans partir, et Jakob qui pousse une espèce de cri, nostalgique, libérateur, on sait pas trop, mais vers un ailleurs, en fait, qui est cette terre de l'étrope, dit trope, comme ils disent, donc la terre des tropiques, en fait, qui passe pour un paradis. On verra à la fin du film que c'est pas un paradis, autant qu'on pouvait l'espérer, mais le thème est là, vraiment de façon comme un leitmotiv.
Mais ce qui est justement intéressant, me semble-t-il, c'est que le personnage principal, dont on a l'impression au départ qu'il est fortement attiré, évidemment, par les tropes, donc l'Amérique latine en l'occurrence, et qu'il va peut-être partir, comme beaucoup de ses camarades ou amis villageois ou d'ailleurs, comme son frère également, amant plus tard, ainsi que la femme qu'il aime, et bien finalement, cet homme, Jacob, ne part pas. Et ce qui est intéressant, c'est que dans la deuxième partie, intitulée donc l'Exode, et pas simplement l'exil, donc la référence est aussi biblique, et bien Jacob donc, ne part pas, renonce à partir, également porté par des valeurs plus fortes que le désir d'ailleurs, qui sont tout simplement la loyauté et la fidélité à la famille, des valeurs beaucoup plus anciennes que l'attirance vers l'étranger, puisque ce sont des valeurs qui sont répétées par un certain nombre de personnages tout au long des films.
Oui, parce que tout au long du film, on a la chronique à la fois familiale, à la fois du village voilà. aussi.
Et lui-même, dont on le sent si attiré par l'Amérique latine, renonce à partir, justement par fidélité envers sa famille. Mais en même temps, dans ce deuxième film, donc intitulé L'Exode, on le sent quand même en exil un petit peu de lui-même et de sa famille, justement, puisque c'est dans ce deuxième film, eh bien, il vit ailleurs en toute une partie, c'est-à-dire qu'il a été arrêté par les forces publiques pour s'être rebellé. Il est donc en exil de pas tant de lui-même, puisqu'il y trouve un certain compte, hein, il défend ce en quoi il croit, la liberté, mais il est en exil donc de sa famille et de son village, puisque après la prison, il va se mettre à vivre chez un ami, dans un autre village. Et donc finalement, ce que ce deuxième volet ou cette deuxième partie nous apprend, c'est que l'exode, ce n'est pas forcément l'émigration, aller ailleurs, en l'occurrence l'Amérique latine, tant convoitée à l'époque, mais c'est également partir, quitter sa famille. Donc il y a tout le thème de la séparation, apprendre à vivre pour soi-même, ailleurs que chez soi, mais pas forcément si loin, puisque ce que nous dit ce film Heimat, qui est donc le Heimat signifie en un sens un peu la patrie, le foyer ou la terre natale, c'est que ce n'est pas simplement la famille donc, que certains quittent, mais également une terre et un pays que l'on veut défendre via la défense de la liberté, la défense d'un certain nombre d'idéaux, en l'occurrence démocratiques.
C'est aussi un thème qui est présent, pas seulement dans la seconde partie, hein, même dans la première déjà, avec le personnage notamment de la sœur,
tout à fait.
Qui est un très beau personnage,
tout à fait.
Qui a été renié par le père pour avoir épousé un catholique, toute la famille est protestante, et chez qui Jacob va se réfugier quelques instants après avoir lui-même été chassé par son père, puisque c'est vraiment là pour le coup le même thème, toujours du rêveur un peu qui lit, qui ne participe pas trop aux travaux de l'atelier de son père qui est forgeron.
Tout à fait, oui, il y a cette forme de rivalité fondamentale entre les deux frères, dont on se demande à un moment s'ils vont pas être Abel et Caïn, finalement.
Oui, ne serait-ce que dans sa famille, et puis aussi par rapport à la jeune fille qu'il
convoite. Et par rapport à la même femme qu'ils aiment, en fait, enfin, que lui aime et que l'autre épouse, parce que c'est difficile de savoir si le frère aîné aime vraiment cette femme. En tout cas, il la chérit et la respecte, ça c'est très clair. Il y a aussi une fidélité à des valeurs qui sont, on engrosse une femme, on l'épouse, alors que l'autre qui va pas l'épouser finalement, mais qu'il aime, est peut-être plus moderne en ce sens, sachant qu'ils commettent aussi un adultère tous les deux. Mais ce que tu mentionnes, Aliette, et qui est très intéressant, c'est en effet le fait que je disais, donc il y a Abel et Caïn, les deux frères, mais qu'il y a une sœur également, c'est-à-dire qu'ils sont trois enfants, dont une sœur dont je pense qu'elle est l'aînée d'ailleurs.
En tout cas, Jacob est le plus jeune.
Elle est la première, en effet, à faillir au modèle familial et également culturel en quittant donc, la famille, et surtout village, en épousant un homme qu'elle aime, puisqu'elle le dit ostensiblement, c'est pas simplement
beaucoup,
parce qu'elle elle a été enceinte, et également qui est d'une autre religion, ce qui à l'époque ne se fait pas. Et je trouvais ça intéressant comme thème.
Oui, c'est ça, il y a l'histoire aussi de, comment dire, les deux générations, en fait. Chacun des trois enfants va suivre quelque part son propre chemin, hein, les enfants qui sont racinés encore dans la REM, dans la terre natale, et puis chez les enfants, il y en a un qui part, et il y en a une qui va épouser un français, je crois, hein, donc il me semble, bon, français catholique, et le troisième qui rêve d'aller ailleurs, qui est très intelligent, donc qui a des intérêts scientifiques aussi, hein, à la fin, il y a le personnage de Humboldt qui apparaît, et puis qui veut en fait venir le prendre, hein, le chercher à Berlin, et il n'ose pas, en fait. Tu disais tout à l'heure, la fidélité, oui, c'est vrai, mais on a l'impression qu'il y a aussi une certaine peur, en fait, hein, de quitter en fait ce cocon protecteur.
Oui, bien sûr.
L'ose pas, en fait. C'est des terres lointaines, par exemple, l'Amérique du Sud, qui font rêver vraiment, mais qui sont quand même assez, assez mystérieuses. Donc, c'est à la fois une attirance et peut-être aussi quelque chose d'assez difficile à vraiment, pour vraiment passer le pas.
Voilà, donc peut-être juste si on peut dire deux mots sur le côté un peu plus esthétique. Donc on a dit...
Cette utilisation de la couleur qui est très partielle, avec seulement quelques scènes très rares, et à chaque fois seulement un objet qui est un peu illuminé. Donc je sais pas, c'est une symbolique qui peut-être peut être un peu lourde, cette idée de la vie très dure en noir et blanc qui est illuminée par quelques rares moments.
Oui.
Mais finalement, moi j'ai trouvé ça assez anecdotique. C'est un joli effet comme ça de temps en temps, mais ça n'a pas une grande importance dans le film non plus. Je ne sais pas ce que vous en avez pensé.
Oui, moi aussi, je me suis demandé vraiment quel était l'intérêt de mettre en valeur ces objets via la couleur, sachant que les couleurs aussi sont diverses, puisque nous avons affaire à du rouge, à de l'orangé, à du vert,
du bleu. Quand il y a les fleurs dans les champs.
Voilà, donc pourquoi ces couleurs plus que d'autres, et pourquoi finalement ces objets, sinon qu'ils incarnent peut-être en effet l'espoir ou le renouveau.
Il y a certains moments où c'est assez clair, quand on voit par exemple dans la première partie, il y a le drapeau, qui sera plus tard le drapeau de l'Allemagne démocratique fédérale. Il est en couleur. Hein. Donc là, il y a l'idée de l'espoir, des érables rouges, des cerises, etc. On peut voir même le bleu dans les fleurs, dans les champs. Il y a l'idée de quelque chose de peut-être plus gai, hein. Enfin une projection dans quelque chose qui est moins horrible que quand même ce film qui est très centré sur les maladies, hein, sur les enfants qui meurent, sur la séparation, les adieux, etc.
Mais c'est pas non plus vraiment tragique, ceci dit. Hein. C'est quand même assez contemplatif.
Ça se finit bien. Hein. Il y a quand même, ils sont arrivés au Brésil, etc. Ça n'a pas été facile, mais enfin, il y a le désespoir à la fin, mais la deuxième partie est quand même très très lourde.
Hein. Oui, il y a un changement de ton.
Les longues séquences.
En tout cas, la première partie, surtout quand on suit Jacob vraiment dans ses rêveries un peu quotidiennes.
Mais je dirais que la première partie est plutôt idéaliste, tandis que la deuxième partie est plus réaliste, en un sens, sur les thèmes abordés, ce qu'on disait par rapport aux enfants qui meurent, aux maladies. Bon, après, c'est aussi le caractère chronologique qui veut ça, puisque évidemment, la deuxième partie, c'est le temps avance, et donc là, voilà, la mère meurt, elle devient malade, enfin elle est très malade, etc. Les enfants partent, donc je pense que c'est le caractère chronologique en effet de l'histoire qui veut ça, mais après de là à dire que c'est absolument dramatique ou noir, justement, ça me paraît moins noir que ne le veut le noir et blanc.
Voilà. Bah, du coup, je pense que c'est quand même un film qu'on conseillerait.
Ah oui,
qui
oui.
Vaut le coup. En plus,
la musique est très belle. J'ai beaucoup aimé le thème.
Pour les amateurs de cinéma allemand, il y a une rencontre entre deux grands réalisateurs. Bah, il y a d'une part Edgar Reitz qui fait une apparition dans son propre film. Et il y a Werner Herzog qui vient aussi et qui joue Humboldt,
en fait.
Et donc, ça lui va vraiment très très bien ce rôle, je trouve. Il débarque là en monsieur, il est gants en costard, comment on appelle ça, avec un chapeau haute forme, etc., dans ce petit village. Et donc, c'est assez émouvant, en fait, je trouve, de voir cette rencontre entre ces deux grands réalisateurs.